Vous êtes notre envoyé spécial à la COP27. Vous êtes à Sharm el-Sheikh où débute cette dernière journée de négociation. Enfin, dernière en principe, hein, car il semble bien qu'à quelques heures de la clôture, on soit loin d'un accord. Alors, à cette heure-ci, on ne va pas évoquer l'état des négociations. On aura l'occasion d'y revenir dans la suite de Matin Première. Vous allez plutôt, Sophie, nous dévoiler les coulisses de cette conférence. Qu'y a-t-il derrière les textes et les déclarations officielles? Décrivez-nous peut-être un peu les lieux pour commencer, parce que j'imagine que quand on accueille des délégations du monde entier, il faut de la place et puis il faut aussi une fameuse logistique.
Oui, alors c'est un peu comme si vous voulez au Palais du Heysel à Bruxelles, quoi. C'est un grand centre de conférence avec des bâtiments en dur qui existent déjà et auxquels s'adossent des bâtiments démontables. D'habitude, vous avez une grande allée centrale de laquelle partent différents bâtiments. Cette année, le plan ressemble plutôt à un poulpe. Évidemment très présent ici dans la mer Rouge. Vous avez alors aussi une zone A, B, C, D. Il faut savoir que la superficie du site atteint près de 15 terrains de football. Je peux vous dire que les 10 000 pas par jour, vous les faites sans souci. Le centre de conférence est, paraît-il, alimenté en électricité solaire. Difficile, bien sûr, à vérifier. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ERCO tourne évidemment en plein régime. Heureusement, j'avais quand même pris un pull dans la valise.
Et ces bâtiments, ils accueillent quoi, Sophie?
Alors, il y a tout d'abord un centre de presse sur deux étages. Ensuite, vous avez des salles Horus, Osiris, Amos. Nous sommes en Égypte, dans lesquelles des conférences sont données par différentes parties ou différentes coalitions de pays. Il y a alors aussi deux salles plénières, Ramsès et Nefertiti. Ça ne s'invente pas, où s'expriment là, à la tribune, les chefs d'État, le président de la COP, l'égyptien Sameh Choukri, ou encore toutes les parties se rassemblent en fin de COP pour acter ou non un texte final. Et puis, il y a aussi les pavillons. Alors là, c'est un peu, Marie, le salon de l'alimentation. C'est l'endroit le plus animé, le plus bruyant, le plus coloré. Chaque pays ou groupement de pays, il y a aussi des ONG, des groupes internationaux, ont un stand, un pavillon. Et au plus, évidemment, le pays est riche et puissant, au plus le pavillon est grand. Celui, par exemple, de l'Égypte, pays hôte, est assez imposant. Alors, que fait dans ces endroits, dans ces pavillons, de la représentation pour des projets liés au climat, des conférences de presse, des side events, comme on les appelle ici, des rendez-vous informels qui peuvent parfois aboutir à des rapprochements en marge de la COP. La Belgique a par exemple un pavillon Benelux, donc qu'elle partage avec les Pays-Bas et le Luxembourg. Et puis, il y a les côtes des délégations, là où les ministres et leurs experts se réunissent, là où il y a la délégation belge, pour faire le point sur les négociations ou rencontrer des représentants de la société civile. Comme vous l'entendez, donc, c'est un fameux complexe qui peut accueillir plus de 30 000 personnes. Et il faut nourrir ce petit monde. Et là, cette année, la logistique, j'avoue, ne suit pas très bien. Les fontaines à eau sont vides, les files s'allongent à l'heure du midi, en face de quelques échoppes qui proposent quand même un hamburger à 12 $. Donc, ah oui, tout le monde ne peut pas se le permettre. Bon, l'eau est gratuite. Et figurez-vous aussi, puisqu'on en a beaucoup parlé, le Coca-Cola et le Sprite, sponsors évidemment de la COP ici.
Oui, ça, évidemment, ça reste toujours un peu étonnant. Alors voilà pour les lieux. Quelle est l'ambiance, Sophie, puisqu'il semble que de nombreuses voix aient été muselées pour cette COP?
Oui, aucune manifestation n'a pu se faire en dehors du site. Vous savez, d'habitude à une COP, vous avez de nombreux activistes qui viennent dès le matin et toute la journée interpeller les délégués qui rentrent. Et ici, évidemment, c'est très calme. On voit simplement quelques militants véganes sont à l'entrée. De nombreuses caméras sont installées. Très peu de gens élèvent la voix pour dénoncer telle ou telle situation. Chaque jour, ils sont allés tout au plus une petite vingtaine, peut-être avec des banderoles ou quelques sifflets, selon des militants des droits humains. Près de 700 personnes ont quand même été arrêtées ici en Égypte avant et pendant le sommet. Les contrôles de sécurité sont plus appuyés que d'habitude. Aux côtés de la sécurité de l'ONU, il y a évidemment aussi la police égyptienne présente en nombre à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du site. Donc la sécurité est quand même assez importante ici, donc à Sharm el-Sheikh. On sent quand même une certaine tension, donc on se tient un petit peu à carreau. D'ailleurs, il y a quelques jours, la délégation allemande s'est dite surveillée et il y a une enquête qui est en cours. Alors, côté juste rapidement ambiance entre journalistes, ben là, elle est très bonne parce qu'à force de faire des COP, eh bien, on rencontre toujours un petit peu les mêmes gens. On commence à connaître évidemment les personnes.
Habituée, hein,
et puis entre journalistes, on se refile quand même parfois quelques infos parce que tout suivre, évidemment, c'est impossible.
Mm-hmm. Alors, une dernière question. On a appelé cette COP la COP africaine. Sophie, est-ce que c'est une COP particulière du coup?
Alors, sur plusieurs points, je dirais. Hein. Premièrement, ce n'est pas une COP technique cette année, hein, puisque la mise en pratique de l'accord de Paris avait été finalisée l'an dernier, avec évidemment des échéances qui vont arriver plus tard. Cette année, c'était une COP plus politique. Passer des promesses aux actes, si vous voulez, les promesses qu'on avait dit qu'on s'occuperait de loss and damage, hein, des pertes et préjudices, et donc essayer d'activer tout ça. Deuxièmement, on l'a dit, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, la flambée des prix ont évidemment pesé aussi sur les négociations. Tension entre le Nord et le Sud, justement, à ce propos sur les financements qui traînent. Ça, c'est pour le côté des négociations. Une COP particulière aussi, c'est l'endroit. Hein, Marie, on est ici à Sharm el-Sheikh. Je vous parle depuis ma chambre d'hôtel avec une vue sur la piscine et des palmiers. Donc, ce sont quand même des images étonnantes puisque vous avez des délégués en costume qui croisent le touriste en maillot avec ses palmes et son tuba. Donc, cette station balnéaire est quand même assez étonnante pour tenir une COP avec des hôtels plus grands les uns que les autres, où les pelouses sont arrosées. Et quand vous êtes dans le centre, vous avez des avions qui passent très très bas vu qu'on se trouve à 5 km de l'aéroport. Bref, on peut dire que c'est une COP de contraste, en fait, un peu ici, entre le mont Sinaï très sec, pelé, désertique, et puis d'un autre côté, cette opulence avec les hôtels et la station balnéaire. Mais quand même, pour terminer, Marie, sur une note positive, j'ai croisé un citoyen togolais hier qui me disait que oui, je suis inquiet pour le climat, oui, je souffre dans mon pays, mais j'ai des raisons de me réjouir parce que c'est qu'ici, dans une COP, dans ce cadre de l'ONU, que l'humanité et le multilatéralisme gagnent. Et ça, il m'a dit, il faut le préserver.
Il faut le préserver, il faut y croire aussi. Merci beaucoup Sophie, en tout cas.
Du chef de la délégation belge hier soir à la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat, censée se terminer aujourd'hui. Ça sent donc les prolongations. Il reste beaucoup de nœuds à trancher avant d'aboutir à une déclaration finale. C'est assez habituel. Les COP se terminent souvent le samedi ou le dimanche après de longues nuits de négociations. Bonjour François Jemaine.
Bonjour François.
Vous êtes politologue à Liège, professeur à Sciences Po Paris, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat dont vous avez coécrit le dernier rapport. Vous êtes donc en direct d'Égypte à la COP27. Que faut-il en attendre de cette COP27, François Jemaine? Est-ce que c'est là qu'on va sauver la planète du réchauffement climatique?
Très clairement, non. D'abord, vu l'état des négociations aujourd'hui, très clairement, hier soir, il y en avait accord seulement sur deux points sur les 31 qui étaient à l'agenda. Donc on va jouer les prolongations jusque dimanche et les Égyptiens espèrent en avoir un accord au finish. À l'épuisement, surtout, la préoccupation des négociateurs semble non pas d'avancer, mais d'essayer d'éviter tout recul majeur par rapport à Glasgow. Et donc on a des négociations qui vivent un peu leur vie autonome, au ralenti, tandis que le changement climatique, lui, avance à grand galop. Et le problème, je crois, c'est qu'on attend trop de ces négociations, on compte sur ces négociations pour sauver la planète, alors qu'en réalité, si les différents États arrivent les mains vides, eh bien, les négociations ne vont pas pouvoir leur donner davantage que ce qu'ils y apportent. C'est en quelque sorte comme une assemblée générale, les COP n'ont pas le pouvoir d'injonction aux États, et donc aucune COP, même la plus réussie, ne pourra pas sauver le climat.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut rien attendre du tout de cette COP27 et des autres qui arrivent les années qui viennent?
Non, ça reste des moments importants, ça reste des forums de discussion importants, et comme le climat est un problème global, on est condamné à coopérer ensemble, on est condamné à mettre nos efforts en commun, mais par contre, il ne faut pas attendre que les COP puissent à elles seules décider de réduction sans ambition, puissent à elles seules fournir l'argent pour l'adaptation ou pour les pertes et dommages, simplement parce que c'est simplement une assemblée d'États qui reste souverain et qui vont essayer de mettre en commun leurs efforts. Mais ce n'est pas davantage que ça.
François Jemaine, vous êtes donc en direct de Sharm el-Sheikh. Comment vous y êtes allé là-bas?
En avion, bien sûr.
Si je vous pose la question, c'est parce que vous dénoncez régulièrement, et dans votre dernier livre également intitulé « L'écologie n'est pas un consensus », la culpabilisation hein, liée à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous aviez d'ailleurs été vous-même la cible d'attaque au printemps dernier après avoir pris un vol jusque Nice.
De Nice à Paris.
Arrêter de prendre l'avion, ça ne fait pas avancer la cause climatique ?
Bien sûr, chacun doit être responsabilisé par rapport à ses comportements, et notamment pour ça, il est utile que chacun ait en tête quelle est l'empreinte carbone associée à chacun de ses comportements. Par contre, si on commence à juger chacun et émettre un jugement moral sur chacun à partir de son style de vie, je crains fort qu'on arrive à une société qui se divise en deux camps, le camp du bien contre le camp du mal, sans prendre en compte qu'en fait, nous sommes tous, dès le départ, dans le camp des méchants. Du seul fait de notre condition de citoyen de pays industrialisé, nous portons à notre corps défendant une responsabilité énorme dans le changement climatique. Et donc l'enjeu, c'est pas seulement de stigmatiser, de pointer du doigt les comportements des uns et des autres, et c'est souvent des moyens de détourner le regard de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire la décarbonation massive de nos sociétés.
Ça veut dire que les militants qui jettent de la soupe sur les vitres des peintures dans des musées, ou qui bloquent des routes, ou qui bloquent le décollage d'avions, c'est contre-productif ce genre d'événement de protestation ?
Je comprends évidemment la colère et le sentiment de frustration qui anime ces militants, et je les partage aussi, mais je crois qu'il faut prendre garde à ce que les actions pour le climat parlent à la société entière et pas seulement à un cercle de convaincus. On le voit bien, le but de ces actions, c'est de choquer et de faire parler, mais ce faisant, ça divise aussi la société entre ceux qui vont trouver ces actions géniales et ceux qui, au contraire, vont être profondément choqués. Et le problème, c'est que ceux qui vont être profondément choqués, ce sont précisément les gens qu'il faudrait le plus convaincre pour embarquer dans cette décarbonation de la société. J'ai envie de dire que il me semble qu'aujourd'hui, le stade de l'alerte est dépassé. 85% des Européens se disent tracassés par le changement climatique. Aujourd'hui, je crois que ça ne sert plus à rien de crier au feu. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est éteindre l'incendie, parce que tout le monde voit bien que la maison brûle et le changement climatique lui-même se charge régulièrement de le rappeler.
Alors, qui va éteindre cet incendie, François Jomène ? Qui va embarquer la société vers le grand virage, vers une société décarbonée ? Est-ce que ce sont les partis politiques, les partis au pouvoir ?
Non, mon sentiment est qu'on est dans une sorte de jeu de dupes où chacun essaye de se renvoyer la balle. Où les États disent que c'est aux citoyens d'agir, et on a cette sorte d'écologie des petits gestes qui au fond ne représentent qu'un quart de l'effort à se fournir et qui parfois va nous détourner de l'essentiel. On a les citoyens, notamment les activistes, qui demandent aux États d'agir, mais le problème c'est que quand on regarde les résultats des élections, les États ne reçoivent pas de mandat très fort pour agir pour le climat. On peut pas dire qu'il y a un vote massif pour le climat. Et donc je crois aujourd'hui que davantage qu'une majorité conscientisée, ce sont des minorités déterminées qui vont pouvoir faire advenir le changement. Et ces minorités déterminées, on va les trouver évidemment dans la société civile, mais aussi dans les collectivités et dans les entreprises. Quand je regarde l'état de la société aujourd'hui, il me semble que là où il y a le plus de changement qui est en marche, c'est dans les entreprises, c'est dans les collectivités, et donc c'est vraiment sur ces minorités qu'il faut, je crois, s'appuyer, de manière à voir comment on amplifie leur action, comment on amplifie le changement, et comment on lui permet de se démultiplier.
Mais ça veut dire que les partis politiques aujourd'hui ne sont pas à la hauteur du défi écologique, c'est pas d'eux que viendra la pulsion. On sait que la Belgique s'est engagée à diminuer ses émissions de 35% d'ici 2030. Vous dites aujourd'hui c'est qu'une promesse, on attend toujours les actes ?
Bien sûr, tout le monde fait des promesses à l'horizon 2030, 2040 ou 2050, mais le problème de ces promesses, c'est que les gens qui les font ne seront plus en charge d'ici 2030 ou 2040, et donc n'auront plus à rendre des comptes sur les promesses qu'ils ont faites. C'est-à-dire que ces promesses à horizon de moyen ou de long terme sont en fait surtout des moyens de retarder l'action. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais très bien que je vais continuer à boire beaucoup trop de bière jusque 2029, et ce n'est qu'en 2029 que je vais me dire « Oh là là, il faudrait que je perde un peu de poids ». Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on ait des engagements mois après mois, année après année, qui portent pas seulement sur les températures, mais qui portent sur les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons. Ça me paraît très important. L'autre chose, c'est que la démocratie représentative, qui est aujourd'hui représentée par des partis dans nos parlements, a des limites à traiter cet enjeu de long terme et je pense n'est plus capable aujourd'hui de prendre les virages nécessaires pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Parce que chaque parti va chercher à s'adresser à une classe particulière d'électeurs dont il va représenter les intérêts qui vont parfois être contradictoires et le rôle du gouvernement, ça va être de dégager un contrat social qui combine ces différents intérêts relativement contradictoires, mais là-dedans, personne ne va vraiment représenter l'intérêt du climat, personne ne va vraiment représenter l'intérêt de la biodiversité, chacun va représenter les intérêts de ses électeurs.
Ça veut dire, François Jomène, que si on vous mettait dans une demi-heure face à notre invité, c'est le ministre de l'Environnement, l'écolo Philippe Henry, qui revient de la COP d'ailleurs, vous n'auriez plus rien à lui dire, plus aucune question à lui poser, c'est pas de son côté que ça va se passer ?
Lui poser. Ça ne veut pas du tout dire que le politique n'a plus aucun rôle à jouer, et je crois que le rôle du politique, c'est d'encadrer les choses, soit par des règlements, soit par une fiscalité qui soit un peu plus, plus offensive en matière climatique. Mais par contre, je ne pense pas qu'on doive trop attendre des gouvernements. On demande aux gouvernements de sauver le climat, et les gouvernements ne reçoivent jamais ce mandat de la part de leurs électeurs.
Merci beaucoup François Jomène.